J'aimerais parler sur le fils prodigue. Dans Luc, chapitre 15 et au verset 11, il est écrit, « Il dit encore, donc c'est Jésus qui parle, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Amen. » Il nous arrive à tous de prendre une mauvaise direction dans la vie, on a fait des mauvais choix, on s'est retrouvé dans des mauvaises routes, des mauvais sentiers, peut-être des mauvaises fréquentations. Et puis, on a été interpellé par le Seigneur qui nous a ramenés, on a fait demi-tour. C'est jamais trop tard pour faire demi-tour et revenir dans la bonne direction. Un petit peu comme quand on est en voiture, si vous prenez la voiture et que vous avez manqué la sortie d'autoroute, bien c'est inutile de continuer sur la voie où vous êtes en espérant que cette route va vous conduire à la destination que vous souhaitez. Vous êtes sur une mauvaise route. Donc la démarche la plus simple et la plus logique, c'est de sortir à la prochaine sortie, de faire demi-tour et de revenir dans la bonne direction. Donc on sait le faire sur le plan humain, quand il s'agit de la conduite, mais nous devons le faire aussi sur le plan spirituel, quand on a fait des mauvais choix, on a pris des mauvaises directions dans la vie, on a connu des mauvaises fréquentations, eh bien c'est encore possible de bifurquer, de faire demi-tour et de revenir à Dieu. Et c'est cette pensée-là qui ressort de cette parabole de Jésus qu'on appelle le fils perdu ou le fils prodigue. Le premier point que je vois dans cette parabole, c'est d'abord les caractéristiques du jeune fils. Il y a plusieurs caractéristiques qui ressortent de ce jeune homme. Et la première, c'est l'orgueil. Parce que il demande à son père l'héritage qui doit lui revenir, alors que son père, bien sûr, n'est pas mort. Normalement, l'héritage, nous le recevons quand nos parents sont décédés, nous recevons un héritage. Mais lui, il a l'orgueil d'aller voir son père pour lui demander maintenant, donne-moi maintenant la part d'héritage qui devrait me revenir quand tu seras parti. Mais donne-la-moi maintenant pour que je puisse en bénéficier et l'utiliser comme je veux. Ça s'appelle de l'orgueil. Un désir immodéré de posséder des biens qui ne lui appartiennent pas. Et finalement, ça démontre le cœur humain. Proverbe chapitre 30, verset 32 dit ceci. « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets ta main sur ta bouche. » On voit que ce jeune homme a été poussé à des actes insensés. L'orgueil en lui l'a poussé à demander son héritage, l'héritage qui doit lui revenir, alors qu'il aurait mieux fait, étant humble, eh bien, d'attendre le jour où il pouvait bénéficier de cet héritage. La deuxième caractéristique, déjà après son orgueil flagrant, c'est son manque de respect pour son père. Parce que, en définitive, le seul intérêt qu'il voit dans son père, c'est la possibilité qu'il va avoir de l'argent de sa part. Donc, il ne l'aime pas, il aime ses biens. Il n'aime pas son père, il aime l'argent qu'il possède. Et il demande cet argent. Donc, on voit pas d'ailleurs le fils exprimer de la gratitude en remerciant son père, par exemple. Parce que le père va concéder à donner à ce fils une part de l'héritage, mais on ne voit pas le fils exprimer de la gratitude. On le voit dans son orgueil, dans son amour du monde, et ça démontre un cœur fermé, un cœur, j'allais dire, enlacé de la pensée du monde, un cœur dur et rebelle. Jésus en parle dans Matthieu 7, 21, il décrit toute cette problématique du péché dans le cœur, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Voilà ce qui habite le cœur de ce jeune homme. Mauvaises pensées, il y a des adultères, des débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, on en a parlé, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc on voit que dans le cœur de ce jeune homme, il y a une abondance. Déjà de péché, de désir immodéré et de manque de respect envers son père. Une troisième caractéristique que je vois chez ce jeune homme, c'est sa promptitude pour le péché, pour le mal. Puisque le texte dit que peu de jours après, il a eu l'argent de l'héritage, mais peu de jours après, il prend l'argent et il va le dépenser dans la débauche. Peu de jours. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Ça veut dire que là où il vivait, c'était comme un carcan. Il était comme dans une prison. C'était la maison de Dieu, la maison du Père. Là, il avait une famille. Là, il avait ses parents. Là, il avait son frère. Là, il avait un toit. Là, il avait des serviteurs dans la maison. Eh bien, le péché le pousse à tout claquer dans les futilités que le monde propose. Et si vous aimez le monde comme ce jeune, si vous aimez les biens matériels, les choses de cette terre, vous serez toujours prompte et vous désirez toujours plus aller dans le péché. Par contre, pour les choses de Dieu, vous serez toujours lent. Vous n'aurez jamais la motivation. Vous serez toujours en train de traîner la patte pour servir le Seigneur, pour venir louer Dieu, pour lire la parole de Dieu. Ce sera difficile, ce sera lent. Mais par contre, la promptitude, le zèle, c'est pour les choses du monde. Ce jeune, manifestement, il a plus de zèle pour le péché, pour la débauche, que pour la présence de Dieu. Donc, la caractéristique de la promptitude pour le mal. Une quatrième caractéristique, c'est maintenant sa fuite, loin de la présence du Père, c'est-à-dire la présence de Dieu. Le texte dit qu'il partit pour un pays éloigné, le plus loin possible de son Père. Donc, à ce moment-là, eh bien, plus vous prenez les mauvaises décisions, plus vous allez vous éloigner de la présence de Dieu. Ça, c'est incontournable. Ce jeune homme court après la liberté, il court après le bonheur, il ne la trouvera pas. C'est un petit peu le pays de l'illusion, le pays du bonheur, mais vous ne trouvez pas le bonheur. Dieu nous a créés libres et responsables, donc il utilise sa liberté, mais il est responsable aussi de ses choix. Et si vous regardez la vie de Jésus, bien Jésus n'a jamais forcé personne, il n'a jamais dit que les disciples étaient obligés de le suivre. Il a laissé les disciples libres. Certains l'ont suivi, d'autres l'ont abandonné, parce que nous sommes libres et responsables. Notre part, c'est d'être déterminé, de vouloir suivre le Seigneur. Dieu nous donnera la force. Mais si, comme ce jeune, vous choisissez les mauvaises orientations, vous vous éloignez dans ce pays, j'allais dire ce mirage du bonheur, de l'argent facile, des fréquentations futiles, et puis de la débauche, ça c'est le bonheur illusoire, eh bien finalement, vous vous éloignez de Dieu et vous ne pouvez pas être un disciple comme Dieu le veut. Il y a un choix à faire, être déterminé, et si vous êtes déterminé, Dieu vous donne la force pour être attaché à lui et marcher dans ses voies. Cinquième caractéristique maintenant, c'est qu'on le voit plonger dans la débauche. Il plonge dans la débauche, c'est-à-dire la vie où il ne se soucie pas de ce que Dieu dit dans sa parole, de ce que Dieu veut pour sa vie. Qu'est-ce que Dieu veut? Bien, il veut que nous nous gardions purs pour la personne avec qui nous pourrons nous marier. Si nous sommes appelés à nous marier, bien, faut nous garder purs. Bien, lui, il préfère vivre dans la débauche, c'est-à-dire il gâche sa vie dans le péché. Péché, il va donc aller avec des femmes, d'autres femmes, peut-être la prostitution, l'immoralité, et ainsi il va gâcher sa jeunesse. Et ça, c'est la liberté de chacun. Effectivement, nous sommes créés libres, avec la liberté de pécher. Et donc, il va revendiquer ses droits, il a le droit, aujourd'hui, on entend dans la société qu'on a le droit, on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit, par exemple, de vivre ensemble sans être marié. Aujourd'hui, c'est un droit, chacun fait ce qu'il veut. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Dieu pense de la situation? Et la parole est très claire sur ces questions-là. La parole de Dieu dit c'est un péché. Et elle dit ce qui est bien, ce qui est bon aux yeux de Dieu, c'est le mariage qui est selon Dieu. Un homme et une femme. Aujourd'hui, quand on parle de mariage, on est obligé de préciser un homme et une femme. Parce que le mariage a perdu son sens. Le monde utilise le mot mariage pour dire du moment que deux personnes s'aiment, c'est un mariage. Mais c'est pas le mariage selon Dieu. Pour ça, il nous faut bien connaître la pensée de Dieu. Aujourd'hui, l'adoption des enfants, peu importe le type de famille, monoparentale, couple homosexuel, on peut adopter des enfants, on peut procréer des enfants, même si on est célibataire. Donc la famille a complètement éclaté. Pourquoi? Parce que c'est comme ce jeune, c'est la vie de débauche. Ce que le monde propose, c'est illimité, c'est une vie de débauche, une vie de liberté absolue. Voilà les caractéristiques de cet homme. Le problème, c'est que si vous cherchez le bonheur dans la débauche, vous ne le trouverez pas. Vous ne serez jamais satisfait, parce que vous pourrez creuser, 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 vous aurez toujours faim d'autre chose. La débauche ne comble pas un cœur. Or, ce qui comble vraiment un cœur, c'est la présence de Dieu. Et on a la parole de Dieu. La parole de Dieu, on dit, c'est comme le code de la route. Le code de la route, il nous enseigne comment on doit rouler. Faire attention, il y a des stops. Faire attention, limitation, par exemple, à 50, limitation à 90. Priorité à droite. Tout cela, nous le connaissons. C'est le code de la route. Eh bien, il y a un code de la route divin, c'est la parole de Dieu. Et si vous voulez vivre votre vie selon la pensée de Dieu, il faut connaître le code de la route. Le code de la route de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que le monde enseigne, ça c'est son code, ça c'est la débauche, c'est la liberté, faites ce que vous voulez, vous serez heureux et tout, c'est le code du monde. Mais ce qui doit nous préoccuper, nous intéresser, c'est le code de la route de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur cette situation? Qu'est-ce que Dieu pense de cette fréquentation? Est-ce que je vais accepter le code de la route? Est-ce que je vais appliquer ma vie à la volonté de Dieu? Voilà les questions que ce jeune homme ne se pose pas, et il ne lutte pas, il est entraîné par le monde et ses plaisirs, et il est enlisé dans son péché. Or, nous, si nous sommes chrétiens, nous devons être remplis de la présence de Dieu, remplis de sa parole, et aimer le Seigneur. Vous ne pouvez pas aimer le monde, aimer les plaisirs du monde, et aimer la parole de Dieu. C'est pour ça que plus vous allez aimer le monde et ses plaisirs, plus la parole de Dieu va vous sembler difficile à lire, ou fade. Mais plus vous allez aimer Dieu et sa parole, plus le monde va vous sembler fade, loin de la pensée de Dieu. C'est un choix. C'est une décision qui oriente votre vie entièrement. Alors pourquoi le jeune homme fait-il tout cela? Ben, parce qu'il y a un tel vide dans son cœur qu'il essaie de le combler avec ce qu'il trouve. Ben, en l'occurrence, la débauche. Mais ce vide-là, il existe dans tous les cœurs. C'est le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et que rien dans ce monde ne peut combler, on peut essayer partout, dans toutes les situations, mais non. Tant que vous ne viendrez pas à Jésus, vous ne pourrez pas avoir un cœur parfaitement comblé. C'est pas possible. Il y aura toujours un vide. Colossiens chapitre 2 verset 10, c'est une vérité spirituelle. Paul déclare, vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire en Christ. Il n'y a que en Christ qu'on a tout pleinement. Il n'y a qu'en Christ qu'un cœur peut être complètement comblé. Lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Donc si vous voulez être comblé, venez à Jésus. Ne cherchez pas dans le monde, dans ses plaisirs, dans ses relations futiles. Vous n'aurez que déception, déboire, désillusion. Mais venez à Jésus qui va combler votre cœur pleinement. Ça, c'était le premier point. On voit toutes ces caractéristiques déjà chez ce jeune homme, toutes ces problématiques. Le deuxième point, c'est maintenant qu'il va passer du rêve à la réalité. Évidemment, quand il est parti avec l'argent, lui, il rêvait d'une grande vie, d'une belle vie. Il ne pensait pas finir dans le bourbier avec les pourceaux, mais il pensait vivre la vie d'abondance. Donc le jeune homme, dans son périple, connaît la famine. Et ça, ça nous parle maintenant des épreuves de l'existence. Il commença à se trouver dans le besoin. Bah oui, il a tout dilapidé dans la débauche, il a plus d'argent, il a plus d'amis, il manque de tout. En réalité, il était parti plein, il était dans la présence de Dieu, le Père c'est Dieu, dans cette parabole. Il était dans l'abondance financière, il a tout dépensé, et il se retrouve maintenant à vide. Et ce vide, bien, est à l'intérieur, il ne peut pas le combler par ce que le monde lui a proposé. C'est-à-dire que il a cherché à combler ce vide par tous les moyens, par l'argent, par les plaisirs de la vie, par la débauche, mais il n'a pas comblé son vide et maintenant il est dans le besoin. Quel est le vide qui est dans notre cœur? Bien, c'est le besoin d'être aimé, par exemple, le besoin d'un amour inconditionnel. Ça, vous ne le trouverez pas dans le monde. Il n'y a que Dieu qui peut vous aimer d'un amour inconditionnel. C'est un amour infini. C'est un amour qui n'est même pas humain. C'est vrai qu'on peut avoir l'amour, par exemple, du conjoint pour son époux, l'époux, l'épouse. C'est un amour, l'amour des parents pour les enfants. Mais l'amour inconditionnel de Dieu est encore supérieur à l'amour humain. Et là, votre cœur est comblé de l'amour de Dieu. Et puis, ce jeune homme avait besoin de trouver un sens à sa vie. Eh bien, vous ne trouverez pas le sens à votre vie dans les plaisirs du monde. Vous trouverez des joies superficielles, factices. Mais le sens de votre vie, pourquoi vous êtes sur terre, qu'est-ce que Dieu veut pour votre vie, il n'y a que au pied du Seigneur que vous pouvez le trouver. Donc on a été créé avec un corps physique, une âme et un esprit, ça c'est l'être intérieur. Et la plupart des gens, comme ce jeune homme, ils vont s'occuper du corps. Ils vont le nourrir, ils vont s'occuper de se faire plaisir, de bien se vêtir, de dépenser beaucoup d'argent dans des futilités pour s'entretenir le corps, mais il ne se soucie ni de l'esprit ni de l'âme. Et ça, il le laisse végéter, vagabonder. Et pourtant, qu'est-ce qui va survivre après notre mort? Le corps, il retourne à la poussière. Mais ce dont on ne s'est pas occupé, l'âme, c'est elle qui va finalement entrer dans l'éternité. Et si vous n'avez pas préparé votre âme à ce dernier voyage, le voyage pour le ciel, bien, votre âme, elle est perdue. Elle va à la mauvaise destination. Elle va vers la géhenne, dit Jésus, c'est l'étang de feu, c'est le lieu de la perdition. Donc, c'est pour ça que nous devons nous occuper de notre âme. L'âme a une dimension d'éternité, et c'est pourquoi on dit aujourd'hui, c'est encore le temps de se tourner vers Dieu et de le prier et de croire, de reconnaître son péché, de venir à lui humblement et de demander pardon et de vouloir faire sa volonté. Alors ce jeune homme va tenter de s'en sortir lui-même, mais sans Dieu. C'est pourquoi sa première démarche, c'est de chercher à s'en sortir. Alors il va trouver quelqu'un qui va lui proposer de garder les pourceaux dans son champ et comme ça d'avoir une petite activité, sachant qu'en plus, pour un juif, puisque dans la parabole, cet homme et juif, bien c'était une abomination de se trouver en présence des pourceaux parce que les animaux, les pourceaux étaient considérés par les juifs, sont toujours considérés comme des animaux impurs. Faut pas s'approcher des pourceaux et être en compagnie des pourceaux. Alors voilà la situation dans laquelle il est. Il vit dans le péché, dans le bourbier du péché avec ces pourceaux là, alors qu'il était dans la maison du Père, il était dans la sainteté, il était dans la présence de Dieu, eh bien, avec son péché, il se retrouve maintenant dans le bourbier avec les pourceaux. Le péché, c'est ça, c'est un esclavage. Jean 8, 34, c'est Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà la condition de cet homme, voilà votre condition si vous n'avez pas accepté Christ comme Sauveur et Seigneur et qui vous libère et pardonne du péché. Le jeune homme, donc, se désirait se nourrir des carouges que mangeaient les pourceaux parce qu'il avait faim. Les carouges, ce sont donc des fèves grossières qui servent à alimenter les animaux. Et voyez combien on peut tomber bas dans le péché. C'est-à-dire que quand vous tombez dans le péché, vous pouvez vous mettre même jusqu'au rang de l'animal. Où vous désirez les choses vraiment humaines, plutôt les choses du rang de l'animal, comme ces carouges qui étaient faits pour les animaux. Donc il s'est mis au même rang que les animaux. Le péché vous souillera toujours et vous rendra toujours de plus en plus sale et proche de ce monde animal. Il y a un troisième élément, c'est au verset 17. Ce serait bien d'éteindre la petite musique. Verset 17. C'est maintenant une troisième partie, c'est la bonne décision. La bonne décision que va prendre ce jeune homme, moi je dirais il fait 5 pas. Le premier pas, c'est le jeune homme, d'abord, il rentre en lui-même. Il rentre en lui-même, il analyse sa situation, et là, commence à s'éveiller ses yeux spirituels. C'est-à-dire, il commence à prendre conscience que sa vie, ça va pas. Le chemin qu'il a pris n'est pas bon. Ça, c'est le premier pas. Quand vous en arrivez là, c'est bon signe. Tant que vous n'avez pas pris conscience que vous êtes sur le mauvais chemin et vers la perdition, vous continuez dans votre chemin. S'il n'avait pas pris cette conscience, il était dans la débauche, il continue. Là, il fait une sorte d'analyse. Il comprend que sa vie ne colle pas avec la parole de Dieu. Chacun doit considérer objectivement sa propre situation, mais toujours au repère de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on pourrait comparer la Bible à une boussole. La boussole, elle indique toujours le nord. Même si vous dites le nord c'est là, si la boussole elle vous dit le nord c'est là, la boussole a toujours raison. Même si vous insistez en disant non, moi je crois, je suis convaincu, le nord c'est par là. Non, la boussole est un repère absolu et il ne changera pas. Eh bien la parole c'est la même chose, elle est absolue, elle ne change pas. Premier pas donc, rentrer en lui-même. Le jeune homme rentra en lui-même, il comprend il y a un problème. Deuxième pas, il prend la bonne décision de retourner vers son père et de demander pardon. Donc il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père ». Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de continuer à rester dans le péché comme ce jeune homme, mais vous pouvez faire demi-tour. Décider d'arrêter, décider de changer de vie, décider de revenir à Dieu. On n'est pas obligé de rester dans le péché. Le péché n'est pas toujours le plus fort. Le péché ne nous tiendra pas liés éternellement. Il y a des solutions pour en sortir, c'est en venant vers le Seigneur. Donc cette décision, c'est le deuxième pas. Le troisième pas qu'il fait, c'est la repentance. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La repentance. La repentance, ça veut dire réaliser qu'on a péché et accepter qu'on est coupable devant Dieu et demander pardon. Donc il va pas chercher des excuses en disant, ouais, c'est à cause des fréquentations, c'est à cause du milieu familial, c'est à cause de ceci, de mes antécédents, je suis tombé dans la mauvaise famille, j'ai eu tous les problèmes, et voilà, je vis dans le péché. Donc il reconnaît son propre péché, et ça c'est vraiment ce troisième pas, c'est la lutte décisive, parce que le diable fera tout pour vous éviter la repentance, parce que si vous vous repentez et vous demandez pardon de vos péchés, vous serez sauvé. Donc le diable va tout faire pour que vous n'arriviez pas à la repentance. Mais la repentance, c'est vraiment un troisième pas, vraiment fondamental, et c'est là le tournant. Ensuite, quatrième pas, il s'humilie, et il dit, je dirai à mon père, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il s'humilie. C'est-à-dire que son orgueil, vous rappelez quand il est parti, c'était le premier, c'était le chef, il commandait son père, maintenant il va retourner à la maison petit. Il va se considérer comme le dernier. Son orgueil a été brisé. Et tant qu'on passe pas par l'humilité, quand on n'est pas le cœur brisé devant Dieu, quand on se considère encore meilleur que les autres et qu'on se compare aux autres, on n'est pas encore prêt. Donc, il y a les quatrièmes pas. c'est l'humilité, et il faut rester humble tout au long de la vie chrétienne. Et enfin, le cinquième pas, qui est finalement qui clôture les quatre premiers, c'est l'action. Parce que si vous prenez une décision, mais vous passez jamais à l'action, ben ça reste une décision morte. Le texte dit « Et il se leva et alla vers son père ». Voyez, vous imaginez les quatre premières étapes sans la dernière, il manque quelque chose. Vous pouvez très bien tout faire dans votre esprit, vous dire « ça y est, je suis décidé, allez, j'y vais, je vais le faire » et vous restez assis à votre place. C'est un petit peu comme si ce soir, allez, vous dites, à partir de ce soir, allez, 21h, je commence un régime. Prenez la décision. C'est une décision ferme. Mais si vous ne la mettez pas en pratique, ça reste une belle décision. Mais si demain, vous commencez par le midi un couscous, l'après-midi, vous allez à la chocolaterie, vous achetez des chocolats, vous mettez pas en pratique votre décision, et finalement, cette décision, j'allais dire, elle est vaine. Donc il faut vraiment le cinquième pas, qui est l'aboutissement, la mise en œuvre de votre décision. Et puis enfin, les derniers versets, c'est l'accueil du Père qui est remarquable, puisque le Père, le texte dit qu'il le voit arriver de loin. Ça veut dire que le Père, il attendait chaque jour son retour, parce qu'il savait pas qu'il allait arriver ce jour-là, mais il était déjà là en train de guetter, est-ce que mon fils va revenir aujourd'hui ? Ça veut dire que Dieu, il attend toujours le retour à lui, il attend toujours la repentance. Ce que Dieu veut, c'est que chacun soit sauvé, c'est que tous se repentent et parviennent au salut. Donc il pensait chaque jour à son fils, ça nous parle de l'amour de Dieu. Le texte dit qu'il va courir se jeter dans les bras de son fils. Ça montre un pardon total, parce qu'il aurait pu le recevoir à distance en disant « Pourquoi tu reviens? Qu'est-ce que tu as fait avec mon argent ?» Il aurait pu le condamner, il aurait pu avoir des paroles de jugement. En fait, c'est une démonstration d'amour inconditionnel. C'est l'amour de Dieu. Le jeune homme, donc, va reconnaître sa faute devant le Père. Il, effectivement, quand on a dit tout à l'heure, il avait pris sa décision, il avait dit « J'irai vers mon Père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Maintenant, il le fait. Et devant son père, il dit « Je te demande pardon. » Mais il n'a pas le temps de dire « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs » que déjà le père l'arrête pour dire « Allez chercher la robe la plus belle pour la revêtir. » Ça veut dire que le pardon lui est accordé. Quand vous êtes pécheur, vous êtes donc un petit peu comme ce jeune qui s'est souillé dans le péché, vautré dans la boue du péché avec les pourceaux, il est là. Eh bien, Dieu vous accueille si vous venez avec repentance. Il vous pardonne de tous vos péchés. Il vous donne un vêtement nouveau, un vêtement blanc, c'est-à-dire une nouvelle chance, une nouvelle vie. Ésaïe 61, verset 10, c'est ce qu'on appelle le vêtement de la justification. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Le vêtement du salut. Voilà ce que représente ce beau vêtement que lui donne le Père. Et puis, la bague au doigt, ça représente maintenant, tu es membre de la maison, tu es réintégré. Romains 8, 16, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il est réhabilité dans sa place d'enfant de Dieu. Il avait quitté sa place d'enfant de Dieu, il était parti loin du Seigneur, il avait vécu dans sa débauche, mais maintenant il est restauré, rétabli, et il est à sa place dans la maison. Et puis le Père lui donne les souliers aux pieds. C'est quoi les souliers? Bien, en fait, ceux qui avaient des souliers, c'était les membres de la famille. Les esclaves n'avaient pas de souliers dans la maison, les serviteurs n'avaient pas des esclaves, mais c'est comme si le Père lui dit, toi tu n'es pas un esclave, toi tu es membre de la famille de la maison du Père. Donc c'est maintenant sa destinée, il est devenu enfant de Dieu. Alors le Père conclut en expliquant le résultat spirituel de son fils. Il dit, voilà mon fils, il faut se réjouir parce que mon fils qui était mort, eh bien il est maintenant rendu à la vie. Il était mort dans quel sens? Il était mort spirituellement. Pendant tout son temps de débauche, Il était séparé d'avec Dieu, donc il était mort spirituellement. Et il dit, il était perdu, donc il n'était plus sur le chemin de la vie éternelle. Il était perdu, il avait fait ses choix dans une vie qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Mais maintenant, il est retrouvé, c'est-à-dire il a retrouvé le sens de sa vie. Sa vie maintenant a un but. Et il sait pourquoi il est là, c'est pour servir Dieu, c'est pour bénir Dieu. Et il y a donc une joie dans la maison. La joie remplit la maison. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc certains, malheureusement, ont perdu la joie parce qu'ils se sont attachés à une autre joie. Donc ils ont perdu la joie de Dieu. Ils n'arrivent plus à se réjouir quand un pécheur se repent parce que leur joie, en fait, ils l'ont dirigée vers autre chose. Mais si vous aimez Dieu, si vous aimez sa présence, vous allez toujours vous réjouir quand il y a une personne qui accepte le Seigneur et qui se tourne vers lui. Ça, c'est la joie de Dieu. C'est la joie qui vient dans nos cœurs. On va prier quelques instants. Merci pour cette parabole. Merci pour l'exemple de ce fils qui nous montre combien nous pouvons nous égarer dans le péché, être séparés de toi, être orgueilleux et nous entêter dans une mauvaise direction, faire toute une succession de mauvais choix dans la vie. Mais Seigneur, nous te prions pour véritablement cette prise de conscience qu'à un moment donné, nous puissions chacun de nous rentrer en nous-mêmes, analyser notre vie au regard de la parole de Dieu, au regard de ce code de la route, au regard de tes instructions divines, afin de ne pas caler notre vie sur les pensées du monde, sur la mentalité actuelle, mais de la caler sur ce qui te plaît et sur ce que tu désires pour notre vie. Oui, Seigneur, nous te prions pour des réelles repentances, des demi-tours, des prises de conscience pour que vraiment le maximum de personnes réalisent combien on peut s'égarer loin de toi. Et Seigneur, c'est surtout ce retour individuel, cette décision de demi-tour, ce choix d'abandonner le monde et le péché et de venir à tes pieds dans ta présence. Oui, Seigneur, puisse toi-même, par ton esprit, animer ces repentances. Nous prions pour que chaque personne qui rentre dans ce lieu, chaque personne qui entend ta parole, puisse être placée devant ce choix, cette décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, de faire ce demi-tour, de prendre conscience du péché et de s'attacher pleinement à toi. Dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen.